Bonjour. Voilà. Nous allons commencer, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Bonjour à vous, chers amis. Loué soit Jésus-Christ. Nous allons aller dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, versets 12 à 22. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 12 à 22. Je vais commencer peut-être au verset 11, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, vous entendez, ces choses, elles sont très dures. C'est Dieu qui parle à Salomon. Hein. On retrouve ça dans Joël aussi. Hein. Agé. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. À propos de la guérison, c'est un thème sur lequel je vais revenir. À l'égard d'Israël, mais des nations aussi. Mes yeux seront ouverts désormais, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison, que j'ai consacré à mon nom, j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison ?» Et l'on répondra « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. » Ceci est un texte du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, versets 11 à 22. Je le commente légèrement. Il y a donc un successeur à David avec un trône éternel, au verset 18. Tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Ensuite, il est mis clairement que si le peuple d'Israël trahit le Seigneur, eh bien, au verset 20, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. C'est arrivé avec, évidemment, pour Édith, tribu du Nord, en 722 avec Sennachérib, roi de Ninive, Ensuite, en 605, 603 et 598, avec Nebuchadnezzar pour les deux tribus du sud. Et puis ensuite arrive avec Titus en l'an 79 et avec Bar Kochba en 135 de notre ère. C'est quand même lourd. C'est réellement accompli. J'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira pourquoi l'Éternel a-t-il traité ce pays et cette maison. Je vais vous dire que quand l'islam, le premier calife est arrivé, le calife Omar, a pris Jérusalem, il a découvert Jérusalem où il y avait des chrétiens et des juifs, très peu de juifs, mais des chrétiens de rite orthodoxe, de rite arménien, etc. Et il y avait au milieu de la ville une place qui était l'ancien emplacement du temple de Salomon. Cette place était bien sûr vidée de son temple, elle a été vidée par Titus et puis ensuite encore par les six légions qui ont été envoyées en l'an 135 par l'empereur, je ne sais plus lequel, peu importe, mais ce qui a sabardé rudement. Quand le premier calife est arrivé, musulman, il a trouvé que cette place, qui aurait dû être vénérée, respectée par les chrétiens, est couverte d'excréments, d'ordures, de toutes sortes. Les gens se plaisaient à souiller cet endroit pour humilier le souvenir d'Israël et du judaïsme. C'est ce calife qui a fait nettoyer la place, qui a fait tout jeter dans la vallée du Cédron, et qui a tout nettoyé. Et par respect pour ce lieu, il a construit une mosquée à l'extrémité du lieu, la mosquée d'Omar, que vous voyez actuellement sur des photos. Une mosquée assez sombre, pas trop grosse. C'est plus tard le deuxième calife qui a fait construire une mosquée sur l'endroit où est le mont Morija, là où Abraham a voulu sacrifier Isaac, son fils. Et le lieu du rocher est entouré d'une balustrade en marbre, très jolie, et il y a un lieu de passage circulaire dans la mosquée pour regarder ce rocher et prier alentour du rocher, le lieu du sacrifice. Genèse chapitre 22. C'est cet endroit que Dieu a appelé dans Genèse 22, Yahvé Jiré, c'est-à-dire je pourvoirai à cet endroit. Et donc, effectivement, tout cela, sujet de sarcasme, de raillerie, etc. Et puis, en fin de compte, puisque la mosquée est là et l'islam est là, Israël n'arrive pas à reprendre son culte à cette place-là. Israël est empêché de faire son culte et de faire, en tout cas pour les religieux, qui veulent refaire le sacrifice des agneaux, des tourterelles, des bœufs, etc. Bon, pratiquement, c'est accompli, cette parole de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22, est accomplie. Et il y a bien sûr d'autres paroles que nous allons lire et qui vont nous montrer qu'il y a une perspective plus heureuse. Mais je voudrais que vous preniez l'habitude, quand vous lisez la Bible, on ne rigole pas avec Dieu. Il faut le prendre au sérieux dans tout ce qu'il dit. Et trop souvent, nous, ici en Europe, on est un peu fantaisiste, capricieux, on tourne alentour de trop de notre nombril et pas assez de la parole, et on ne se rend pas compte qu'on est en train de manquer de respect à Dieu. Donc il faut prendre la Bible au sérieux. Alors, c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui avec moi. Nous allons prendre des textes et nous reviendrons bien sûr à ce point de départ. Donc Apocalypse chapitre 6 verset 6. Apocalypse chapitre 6 verset 6. C'est un texte assez mystérieux pour beaucoup de personnes. Il y a bien sûr des fléaux sur la terre, etc. Bon, peu importe, mais ce qu'il y a durant les tribulations, mais il y a une mesure, une mise en garde et un empêchement, si vous voulez, un frein donné par Dieu. J'entendis au milieu des quatre êtres vivants, donc les archanges, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. » C'est donc une période de famine annoncée durant la tribulation, 12 fois moins à manger qu'à la fin du premier siècle. Et organisée de manière humaine ou diabolique, ou les deux. Mais il est mis ceci, « Ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'est un verset, la fin d'un verset, qui m'a posé question de nombreuses années. Alors, d'abord, pour moi, l'huile et le vin, c'est quelque chose qui est très symbolique dans la Bible. On va y revenir. Mais si vous allez au chapitre 7, au verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, les 12 000 de chaque tribu, chaque serviteur de Dieu est marqué du signe de Christ et est appelé au salut, bien sûr, et ils sont revêtus d'une robe blanche au verset 9. Ils louent le Seigneur, ils louent Dieu. Ils sont devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, il y a des membres d'Israël qui sont sauvés, qui sont une élite spirituelle pour le royaume de Christ qui sera établi après les tribulations. Donc, il y a à un moment donné, donc, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, il y a un empêchement tout un temps afin de pouvoir définir qui sont les futurs serviteurs de Dieu dans le royaume de Dieu au sein d'Israël. Et évidemment, pensez bien que nous avons eu pour fonder l'église de Jésus-Christ 12 apôtres. 12. C'est sur ce quoi la chrétienté se repose, les 12 apôtres et leur enseignement. Pour ceux qui veulent prendre la Bible dans ses limites, en la respectant, c'est l'enseignement de 12 apôtres d'origine juive. Et là, il y en a 144 000. Donc, il y a une foison de serviteurs de Dieu à la taille de, à la même mesure que Pierre, Jacques, Jean, Paul, dans le royaume de Christ, qui vont d'une manière incroyablement forte, puissante, avec le Saint-Esprit, distribuer la parole de Dieu dans le monde lors du règne de Christ. Alors, je reviens au Apocalypse 6, verset 6, à la fin, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi ? Eh bien, allons d'abord dans Luc chapitre 10, verset 34. Tout ce que je vous dis, vous trouverez des livres qui font des commentaires sur ces versets qui sont peut-être différents. Je n'ai pas l'infaillibilité pontificale, je n'y prétends pas. Je vous donne ma position sur ces versets. Et sachez bien qu'il faut lire d'autres livres, il faut chercher. Et faites-vous votre opinion vous-même. Sondez les Écritures, examinez-les. J'insiste. Donc c'est mon opinion personnelle après des années de méditation, mais voilà, je vous la confie quand même parce que je la trouve importante. Donc Luc 10, quand ce docteur de la loi arrive au verset 25, il veut éprouver Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Qui lis-tu ? Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Ça, évidemment, c'est dans Deutéronome. Et ton prochain comme toi-même. C'est tout dans le Lévitique. Et tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Le commandement de Jésus est clair. Si tu fais cela, tu es dans la vie. tel que Dieu l'a vu. Tu es dans sa volonté, tu exécutes sa volonté, et tu es agréé et agréable à Dieu. Mais lui, voulant se justifier, donc il y a un problème de personnalité, de mise en valeur de la personne dans l'application de la loi, il y a une espèce de narcissisme, d'égocentrisme autour de soi, et là on voit que Dieu n'a pas tout à fait la place essentielle chez cet homme. Il dit, voulant se justifier, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, un adjoint du prêtre donc, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Donc, nous voyons bien que Jésus, à cet homme, en tout cas, qui vient de venir le trouver, au verset 25, il le met devant un miroir. Il montre sa corporation, et il montre leur façon de vivre, leur état d'âme et leur véritable relation à Dieu et à Israël. On va la voir, on va la comprendre. Mais un samaritain, donc c'est un bâtard d'Israël, c'est quelqu'un qui vient du nord, des 10 tribus du nord qui ont été évacuées par Sennacherib, mais on a introduit plein de populations qui se sont mélangées à des rites cananéens et des rites juifs du temps d'Akab et Jézabel, et ça donne un judaïsme corrompu, tout à fait boiteux, de travers, mais il y a tout de même des gens là-dedans qui ont accès à certains textes de la Bible. Les rois d'Israël, du Nord, donc des 10 tribus, avaient interdit tout ce qui traitait de sacrifices dans le temple. Ils avaient interdit aux personnes d'aller dans le temple à Jérusalem, donc ils fréquentaient ni les prêtres ni les lévites. Mais pour certains, telle que par exemple la Samaritaine, elle dit, es-tu le Messie, celui qui doit venir? Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 18, verset 17 ou 18, on parle, Moïse parle de la venue du Messie. Donc le Deutéronome est un livre lu par les Samaritains. Et de la même manière, il y a des textes dans le Deutéronome sur l'amour du prochain. Donc ce que Jésus vient de dire, vient de faire dire à ce docteur de la loi, tu aimeras le Seigneur de ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même, se trouve dans les livres des Samaritains. Et une chose bizarre, il l'applique. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ému de compassion. Donc sensible à la souffrance de cet homme qui est au bord du chemin et qui est en train de mourir, qui va mourir si on le laisse là. Si vous avez été en Israël et que vous avez déjà été de Jérusalem à Jéricho, c'est épouvantable, les déserts de Judée. Si vous tombez là, sans eau, sans boisson, en panne, je ne donne pas cher de votre peau. J'ai des amis qui ont manqué d'y mourir. C'est pas compliqué. Parce qu'ils avaient été inconscients, ils étaient partis comme ça, à pied, ils ont fait tout le chemin à pied et ils n'avaient pas pris à boire. Et voilà, c'était grave pour eux. Ils sont arrivés à Jéricho, ils ont acheté tout ce qu'ils ont trouvé comme boisson, crème glacée, etc. Et alors, le choc a été trop grand. Ils sont tombés malades parce qu'ils avaient exagéré pour se rattraper de toute la déshydratation qu'ils avaient subie. Un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile et le vin sont déposés pour désinfecter le vin. C'est du vin, pensez au vinaigre, le vin léger, le vin de certaines vignes est désinfectant. Et pensez à l'huile, ça protège de la brûlure, du soleil, ça protège vraiment. Et il le mit sur sa promonture, le conduisit à une hôtellerie, prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, donc l'équivalent de 2 journées de travail, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est ce commandement de Jésus qui touche ce docteur de la loi est une remise en question du mode de vie, de l'état d'âme. Pour abandonner une vie de foi rituelle, légaliste, externe, qui n'est pas animée par l'Esprit de Dieu. Et le Samaritain est mis au-dessus. Les derniers seront les premiers, comme a dit Jésus. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et c'est le docteur de la loi qui répond. Il est bien obligé. Il met devant le fait accompli. C'est le Samaritain qui a accompli cela. Mais, chers amis, cet homme-là qui est au bord de la route, qui est méprisé, qui est abandonné par le prêtre et le lévite, représente quoi ? Seulement lui-même ? Seulement lui-même ? Pas du tout. C'est l'image de tout le peuple d'Israël qui est abandonné par les responsables religieux, pour lequel les prêtres, les scribes, les sadducéens n'ont pas d'amour. Et donc, il faut faire attention, Jésus veut enseigner quelque chose à cet homme. C'est l'amour du peuple de Dieu, et pas lui marcher sur la tête et l'écraser et le mépriser. Donc, l'huile et le vin que vous trouvez dans l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 6, c'est durant toute cette période de tribulation, il y aura une partie du peuple d'Israël qui sera laissée pour compte, très persécutée, voire tuée, massacrée, laissée pour compte, et qui aura besoin de la miséricorde, qui aura besoin de l'onction, de l'amour d'autres frères et sœurs. Et déjà, à l'heure d'aujourd'hui, à travers toute l'histoire d'Israël, il faut que cette huile et ce vin soient exercés vis-à-vis d'Israël. Vis-à-vis d'Israël, il faut cette miséricorde. Nous ne pouvons pas dire, à partir du texte que je vous ai lu tout à l'heure, 2 Chroniques 7, versets 12 à 22, « Ces bienfaits ont été punis, c'est bon pour leur poire, leur pomme. » Ce n'est pas du tout ça qu'il faut penser. Comme aujourd'hui, quand quelqu'un se plante, qu'il a des ennuis, qu'il a des difficultés de vie, même graves, parce que il y a quelques années ou quelques mois, il a fait des mauvais choix, il s'est mal comporté, il subit la peine de son péché. Nous n'avons jamais le droit de l'accabler et de le condamner, jamais. Dieu veut qu'on exerce la miséricorde, l'amour, la compassion. C'est l'attitude de notre Messie, de notre serviteur de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Lorsqu'il prêche ainsi aux prêtres et aux lévites, il nous enseigne quelle est la vraie attitude envers tous les peuples, envers tous les hommes et les femmes, et aussi envers Israël à la fin des temps. Parce que Israël va être attaqué, comme c'est annoncé dans Ézéchiel 38. Et qui va s'en soucier ? Puis à la fin des tribulations, encore attaqué, selon Ézéchiel 39. Qui va s'en soucier, chers amis ? On va dire comme beaucoup, « C'est non que ce qu'ils méritent. » Il y a beaucoup de gens très durs. J'ai parfois saisi des paroles parmi des gens de ma famille qui frôlent ce mépris. On se retient devant moi. Mais j'ai vu que les pensées étaient là. Alors, nous allons aller dans Luc, chapitre 6, versets 44 à 48. Luc 6, versets 44 à 48. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, donc s'il a Christ en lui, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, s'il a donné sa vie à lui, Christ est dans son cœur, il conduit son comportement, ses pensées, son action. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc nous voyons bien que les deux, le prêtre et le lévite, ont été méchants vis-à-vis de la victime qui est au bord de la route. Et l'autre, l'étranger, le bâtard au niveau spirituel, au niveau juif, avait un bon trésor dans son cœur. Il accomplissait ce qui était mis dans Deutéronome et Lévitique. Alors, le méchant tire de son mauvais trésor, tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme, toute femme qui vient à moi. Donc, si vous venez à Jésus, réfléchissez bien à ça. Si vous venez petit à petit, centimètre par centimètre, bon, un bond de kangourou en avant, puis trois bonds en arrière, mais si vous avancez quand même, ou carrément, vous y allez, tout de go. Peu importe, c'est pas à moi de juger la façon dont chacun de vous y va. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, bien creusé, profondément. Il a posé le fondement sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ma parole est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sur le sable, elle est sans fondement. Le torrent se jette contre elle, aussitôt elle tombe, et la ruine de cette maison est grande. Donc, nous voyons bien que Jésus avertit les hommes, nous avertit, de la façon dont on doit prendre au sérieux notre futur, notre présent et notre futur. Beaucoup de choses s'écroulent parce qu'elles sont fondées sur le sable, sur des choses qui ne venaient pas de Dieu et sa parole. Et il faut faire attention, les amis. Dieu ne nous condamne pas parce que nous nous sommes trompés, parce que nous avons bâti sur le sable. Nous pouvons encore changer et bâtir sur le rocher. Alors, dans Luc, au chapitre 10, Luc chapitre 10, versets 19 à 26. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gens qui deviennent un petit peu fous quand ils lisent des versets pareils. Il y a des sectes qui jouent avec les serpents, etc. C'est pas ça. Vous avez le pouvoir de dominer sur Satan qui vous tente, sur Satan qui veut vous conduire dans des mauvaises décisions. Si vous aimez Jésus, que vous donnez votre vie à lui, vous avez le pouvoir d'éviter cette emprise de Satan sur vous. Et au contraire, c'est vous qui avez autorité sur lui, dans votre vie. Alors, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, donc les démons, vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui compte, c'est la base, c'est que Dieu, de sa main, écrit votre nom dans le livre de vie. Ensuite, que Satan soit rejeté de votre vie, il n'est plus autorité. Oui, si vous êtes fidèle, vous conduisez votre vie dans l'obéissance à la parole, Satan ne peut plus vous soumettre à de faux désirs, à de faux espoirs, à de fausses espérances, à de mauvaises décisions. Vous acquérez, grâce à l'Esprit Saint, une sagesse qui vous permet de discerner le bien et le mal. Mais sans cette sagesse, sans l'œuvre de l'Esprit Saint en vous, le bien et le mal, vous les confondez, vous inversez. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Donc, Dieu a caché cela aux prêtres, aux religieux, et à mon avis encore aujourd'hui. Et tu l'as révélé à qui? Aux enfants. Donc aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'envergure, aux personnes qui n'ont pas appris vraiment la religion et qui ne savent pas comment se comporter dans la religion. Ces enfants-là qui se perdent et qui ont besoin d'un père qui ont besoin de Dieu. Et Dieu se révèle à ceux qui se perdent, à ceux qui sont petits, pour les ramener. C'est pour ça que Dieu, par le Samaritain, s'approche de cet homme qui est au bord du chemin et va mourir. Nous aussi, dans notre société, il y a plein de gens qui meurent spirituellement. Je le vois bien quand je circule dans les rues, dans les postes, etc. Je vois bien le visage des personnes. Ah, les gens ne se marrent plus maintenant. Et ils se demandent bien quand ça va finir. Ben, peut-être que ça ne va pas trop finir, hein. Alors, où trouver la paix et la joie? Eh bien, regardez bien. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est Jésus, le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est Jésus, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut nous révéler Dieu le Père. Jésus veut nous révéler qui est vraiment Dieu. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Heureux les yeux qui voient. Qui voient quoi? La différence entre Jésus et le reste du monde. Qui voient ce que Dieu demande par Jésus pour accomplir une vie heureuse. Heureux celui qui a compris que le message de l'Évangile est bénéfique et avantageux à sa vie et est le chemin royal. Quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est sans présomption. Il n'avait ni trône, ni banque, ni armée pour le dire. Il avait simplement la vérité de son cœur, sa vie authentique et l'Esprit Saint en lui qu'il veut bien donner à qui croit en lui. Donc lui, le levain que donne le Samaritain témoigne de l'amour divin pour cet homme au bord de la route. Cet amour pour cet homme au bord de la route, on pourrait se demander si on ne le retrouve pas autre part. Et nous allons aller dans Ésaïe, chapitre 1, verset 6. Ésaïe, 8 siècles avant, chapitre 1, verset 6. Je vais commencer au verset 3. « Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. » Donc, c'est-à-dire, ils refusent toute sainteté, toute vie d'obéissance à Dieu. « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes ? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » La tête, ce sont les rois, les magistrats, etc. Hein. Le cœur, c'est le peuple. Hein. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. La plante du pied, ce sont les prophètes. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Regardez l'image, elle est là. 8 siècles avant que Jésus parle de cette parabole du Samaritain, de l'huile et du vin. Et avant qu'on en parle dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 6. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Pas d'amour pour le peuple. Pas d'amour pour les hommes qui souffrent, qui sont égarés, qui sont perdus. Je vous le dis d'avance. Le Seigneur m'a mis un immense amour pour ceux que je rencontre. Parce que je sais que nous sommes tous des aveugles, des boiteux, des estropiés, de cœur, et que nous avons besoin de l'amour divin. Je vous ai raconté il y a 8 jours, 10 jours, certains événements de ma vie où j'ai découvert l'amour divin, l'amour de Jésus, de Christ, venu de Dieu. Mais je me suis arrêté là-dessus, je pourrais encore en parler plus tard, peut-être dans 1 an, 2 ans, peu importe, je ne veux pas m'étaler sur ma personne, mais ce qu'il y a, c'est que cet amour divin, quand il comble un cœur, il déborde pour aller aimer les autres. Vous vous rendez compte que pour le moment, aux États-Unis, il y a une dame qui remplit des stades de football, des milliers de gens. Et vous savez ce qu'elle fait? Ils sont tellement dépourvus d'amour, tellement dépourvus d'affection, Elle les prend tous un après l'autre dans les bras. Elle leur fait des doudous, des caresses, des câlins. Vous n'avez pas encore vu ça sur Internet? On croirait rêver. Le peuple se meurt de manque d'amour, de manque de caresses, d'huile et de vin. C'est pour ça que la fois prochaine, je vais vous lire vendredi des versets. Aimez-vous les uns les autres. Il y a au moins 30 passages, les uns les autres. Pourquoi? Parce que notre mission est de sortir de notre individualisme, de nos peurs, de nos attitudes. Il faut entrer dans le mouvement de cœur de Jésus, du Saint-Esprit. C'est comme ça que nos sociétés peuvent survivre. Sans ça, elle va à sa dégringolade et elle va au finish, dans le mur. Sans ça, il ne faut pas 50 ans. Avant 50 ans, ce monde humain n'existe plus. Avec tous les produits, l'intoxication de l'air, des océans, des corps, des âmes, par toutes sortes de masses médias, etc. Et les armes, en surproduction continuelle, et les mensonges, pour cacher tout ça. Alors, aujourd'hui, je peux dire, il n'y a que des blessures, des contusions, des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et bien sûr, il y a des gourous, il y a des toutes sortes de choses pour proposer du bien-être, de la sérénité. Mais il faut payer. Gros business, les amis. Et il y a de l'occultisme, etc. De temps en temps, il y en a un ou l'autre qui le fait gratuitement. Mais alors, c'est de la magie blanche. C'est un don de Satan pour donner une apparente paix aux personnes, par l'hypnotisme, etc. Et puis, finalement, l'âme est liée au monde des ténèbres, des démons. Les gens ne s'en rendent pas compte, évidemment. C'est peut-être plus tard, hein? Peut-être plus tard quand même. Alors, si nous voyons que Ésaïe 1,6 nous parle déjà de ses plaies, etc., regardons dans Ésaïe 30, verset 26. Ésaïe 30, verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera, donc soignera, la blessure de son peuple, qu'il guérira la plaie de ses coups. C'est une prophétie. Ça veut dire, vous retrouvez ce texte en Apocalypse 21-22, où l'Éternel est la lumière des peuples. Eh bien, c'est l'Éternel. Et il coule sous le trône de Dieu à Jérusalem, sous le parvis du temple, un fleuve. Et il pousse un arbre, des arbres, qui donnent des fruits et des feuilles toute l'année, pour guérir les plaies des nations. Allez lire, cherchez. Donc, Ésaïe 30. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. En parlant d'Israël. Mais il y a d'autres textes, évidemment. Alors, nous allons aller un peu plus loin dans Jérémie, au chapitre 30. Nous ne sommes plus au 8e siècle, nous sommes au 7e siècle. Chapitre 30. De Jérémie, verset 17, en parlant de Israël qui a été tombé, bon, je vais prendre tout verset 12, hein. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, en parlant d'Israël, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie, tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme je frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence pour tes péchés. À cause de la multitude de tes iniquités, péchés volontaires, du grand nombre de tes péchés, Donc Dieu a permis que Israël soit brisé pendant des siècles, et puis il l'a relevé. Il lui a donné une terre. C'est dans Jérémie tout ça. Les prophéties sont là. Il les rassemble de toutes les nations, etc. Mais je te guérirai, verset 17, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car ils t'appelleront, la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, je ramène les captifs, les tentes de Jacob, d'Israël, donc, j'ai compassion de ces demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas, je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Ses fils seront comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, je châtierai tous ses oppresseurs. Alors attention, attention les amis, son chef sera tiré de son sein, donc d'Israël, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Un peu plus loin, verset 24, vous le comprendrez dans la suite des temps. On n'est pas loin de le comprendre, hein, les amis. Donc le dominateur sort du milieu, donc le roi des rois sort du milieu d'Israël et il peut s'approcher de Dieu. C'est le seul. C'est le seul roi de la terre. Jésus-Christ ressuscité qui s'est approché de Dieu, qui est assis sur le trône avec lui. Et donc ce dominateur qui sort du milieu d'Israël, on retrouve ça dans Michée chapitre 5 verset 1 à 3, quand les rois mages vont voir Hérode et qu'on lit ce texte de Michée 5 verset 1 à 3. Donc au chapitre 31, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai Dieu de toutes les familles d'Israël, ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous comprenez maintenant la parabole du Samaritain avec l'homme au bord du chemin? C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Et donc, vous avez plein de choses dans ce chapitre 31 de Jérémie qu'il faut lire. Je vais lire un verset, 17. « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » C'est déjà arrivé. Et après, toujours dans ce chapitre 31, verset 33, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » C'est ça l'onction d'huile, c'est le don du Saint-Esprit. « Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. » Plus besoin de rabbins, de sadducéens, de prêtres, de lévites, plus besoin. Par la parole de Dieu révélée en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, tout le monde peut connaître la pensée de Dieu. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel. » Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Ça, c'est le texte par excellence contre tout antisémitisme. Il y en a d'autres, plein d'autres, mais c'est par excellence. Et vous vous rendez compte que la chrétienté d'Occident, surtout dans le Sud, les pays catholiques, ont été antisémites parce qu'ils ne lisaient pas la Bible. S'ils l'avaient lu, ils ne seraient pas devenus. Et dans le monde protestant, quand au XXe siècle, on est devenu superficiel, qu'à partir du XIXe siècle, fin du XVIIIe siècle, il y a eu des théologiens libéraux, c'est-à-dire qui interprétaient la Bible à leur guise, n'importe comment, qui remettaient tout en question, les protestants ne prenaient plus la parole de Dieu au sérieux. Et, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont devenus antisémites aussi, avec Hitler. Pas tous, heureusement pas tous. Mais ceux qui n'ont pas été d'accord avec Hitler ont été au camp de concentration, au four crématoire, où quelques-uns se sont sauvés à temps. Chers amis, ce que je veux dire, c'est que il y a une volonté pour Dieu de restaurer Israël et de lui donner l'Esprit Saint, de lui donner la vraie vie. C'est ça l'image du Samaritain. À la fin des temps, il faut savoir qu'il y a un plan de Dieu pour nous aussi, avec Israël. Mais j'aborde d'abord ce sujet d'Israël, qui est difficile, parce que plein de gens en Europe, on voit des choses sur Israël et deviennent anti-Israël. J'ai voyagé en 2008 en Israël. Je n'ai jamais vu de musulmans aussi heureux qu'en Israël. Pour tous ceux qui ont une maison, une profession, qui vont à l'université, à l'école, avec un standing de vie incroyable. Et on les trouve sur les marchés, dans les usines, dans les laboratoires, avec des juifs et des chrétiens. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne comprend pas, et on utilise cela contre Israël, c'est qu'à un moment donné, dans la bande de Gaza, quand tous ces hommes et ces femmes venaient à l'école, venaient travailler, l'Iran a équipé des gens de bombes sous les robes, sous les habits, et a fait exploser des bus, a fait exploser des écoles, des hôpitaux. Et Israël en a eu marre. Il a construit des murs, et pendant tout un temps, filtrait et surveillait, contrôlait tous ceux qui passaient. Puis pour finir, il y en avait encore qui passaient avec des bombes. Pour finir, tout était interdit. De là, l'Iran a donné des armes, des roquettes et tout pour attaquer Israël, faire des tunnels et attaquer. Qui empoisonne le problème d'Israël et des Palestiniens? C'est l'Iran. C'est l'Iran. Et de nombreuses personnes inconscientes du problème ont voté de l'argent pour la bande de Gaza. Et il y a des braves gens qui auraient besoin de cet argent. Mais Hamas met la main dessus pour acheter des armes. Le mouvement Hamas a toujours voulu la destruction totale d'Israël. Et c'est à cause de ça qu'il y a des murs, qu'il y a des contrôles sévères. Et quand des tas de roquettes sont arrivées, parfois Israël riposte. Je vais vous dire une chose. Au sein même du pays d'Israël, on ne voit pas de roquettes sur les musulmans. Il y a, dans certaines zones de Cisjordanie, des gens qui sont extrêmement fâchés et furieux sur les juifs. Pourquoi? Parce que les juifs prennent un certain nombre de territoires où ils vivaient. Je comprends leur désagrément et leur souffrance. Et je comprends qu'il y a un gros problème. Il est quasiment insoluble pour l'instant. Parce qu'il vient des juifs de tout le monde entier s'installer en Israël. Parce qu'un peu partout, ça barde pour les juifs, ça devient dangereux. Et ils reviennent là. Et où les mettre? Et donc pratiquement, un certain nombre de juifs très catégoriques, très durs, ont de la haine pour les Palestiniens. Mais ce n'est pas tous les juifs. C'est pas tous les juifs. Il y a des entreprises juives, israéliennes, qui travaillent en Cisjordanie et qui produisent avec la main d'œuvre palestinienne des bons produits et qui donnent un salaire. Et moi je vois dans le commerce, dans les magasins, je vois certains produits, je les reconnais, qui viennent d'Israël parce que j'ai été là-bas et je les reconnais. Et on s'en sert. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'Arabie, elle instiguait également la haine contre Israël. Aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a un accord de paix entre Israël et l'Arabie saoudite, et l'Arabie ne pousse plus les Palestiniens contre Israël. Il y a un accord de paix qui sans doute va se faire. Puisse-t-il être honorable pour les Palestiniens? Je l'espère. Mais sachez bien que le péché règne. Tout Israël n'est pas converti. Tout Israël n'a pas Christ dans son cœur. Il y a aussi des hommes d'affaires, des hommes durs en affaires. Il y a beaucoup de chrétiens en Israël. Il faut prier pour que ce nombre de chrétiens augmente et qu'ils puissent peser dans la balance pour que l'accord de paix soit honorable pour les Palestiniens. Et il faut prier pour que l'Iran cesse d'instiguer la haine contre Israël, qu'un dialogue soit possible et que l'Europe ne parte pas d'un a priori contre Israël. Les masses médias, pour moi, en Europe, ne reflètent pas la réalité de la vie en Israël. Ils montrent toujours ce qui se passe du côté de la bande de Gaza. Mais il faudrait voir que l'auteur de tous ces problèmes vient de l'Iran et avant d'Arabie, et aussi de l'Égypte, des frères musulmans. Maintenant, tout cela est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura, psaume 87, énormément de Palestiniens à Christ qui adoreront Dieu à Jérusalem, avec les Juifs, et avec les Irakiens, les Syriens, les Égyptiens. Tout cela est mis, psaume 87. Il y a beaucoup d'autres textes. Donc il y aura un changement. Il y aura une guérison des peuples. Faut-il qu'elle commence d'abord par Israël, pour qu'il n'envoie plus des bombes et des avions sur la bande de Gaza, ou utilise des moyens que Dieu n'a pas voulu? Il y a moyen de faire autrement pour régler les problèmes. Alors, nous allons continuer notre recherche. Allons dans, je vous conseille de lire tout Jérémie 31, allons dans Jérémie chapitre 18. Là, ça avance. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Quand même, Dieu est puissant, hein. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Ça, c'est le premier Israël, avec la loi, la Torah, etc. Et paf, ça ne marche pas. Vous avez vu l'histoire des prêtres qui descendent de Jérusalem à Jéricho? Ça ne marche pas, ce truc-là. C'est pas par la loi, les règlements, qu'on montre à Dieu qu'on l'aime. C'est pas en méprisant celui qui est en train de souffrir et qui est abandonné, et surtout une grande partie du peuple d'Israël, qu'on montre à Dieu qu'on l'aide. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il en refit un autre. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Avec Jésus et le Saint-Esprit. L'huile et le vin. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Un peu plus loin, vous pouvez lire tout ce chapitre 17. Il est formidable. Vous pouvez comprendre l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu sur Israël les amènera à un changement spirituel très profond, authentique en Jésus-Christ. D'ailleurs, en Israël, j'ai déjà été au culte chez des Arabes chrétiens, c'était formidable, magnifique. Nous aurions des complexes en voyant ces choses. Je suis tombé dans un quartier est de Jérusalem, dans un culte de chrétiens arabes. Avant de commencer le culte, ils étaient tous debout, et le pasteur, c'est un policier de la rue, le pasteur de son métier, le pasteur disait Matthieu 15. Il récite, tout le monde à voix haute récitait sans papier, sans la Bible, le Matthieu 15. Il prenait un autre texte. Aujourd'hui, nous avions convenu de connaître le chapitre 16. Hop, tout le monde récitait le chapitre 16. Ces gens lisent et mémorisent la Bible. Ensuite, il y a eu des chants, des louanges. En arabe, quelqu'un me traduisait, j'en pleurais d'ailleurs tellement c'était profond et beau. Ensuite, un homme, un grand baraqué, chauffeur de camion, a prêché, beaucoup mieux que Billy Graham, les amis. Vraiment, j'ai vu l'Esprit Saint parler par cet homme. Et j'étais touché, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. en l'écoutant. Oui, naturellement, il y avait quelqu'un qui me traduisait en anglais. Mais ce qu'il y a, chers amis, c'est pas des ennemis d'Israël, ça. Pourtant, ils sont arabes. Ils sont en Christ. Ils sont en Christ. Et puis, j'ai été, autre part, chez des juifs messianiques. J'avais tellement mal au dos, aux jambes, j'étais couvert d'arthrose, que cette, une famille juive messianique qui croit en Jésus m'a donné son lit. Ils ont dormi dans le canapé. J'ai été bien accueilli. Et puis j'ai visité. J'ai rencontré d'autres. Quel miracle de voir des juifs qui appartiennent à Jésus et qui connaissent l'Ancien Testament, la Bible. Quel miracle! Et les Arabes aussi, ils connaissent mieux la Bible que nous ici en Occident. Ils sont frères et sœurs entre eux. Vous voyez, c'est ça l'argile repris dans les mains du potier. C'est ça, les ingrédients de l'amour et de la miséricorde divine. Je vous en supplie, ayez un regard positif pour l'avenir. Ce n'est pas les masses médias qui nous transmettent un avis positif sur l'avenir. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer dans la réflexion. Nous allons prendre le psaume 37. Le psaume 37. Dans le psaume 37, voici des consignes qu'il faut avoir pour être quelqu'un de paix. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien et le pays pour demeure, la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice, donc ta sainteté, comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies mauvaises, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus, tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables, donc ceux qui étaient dans la misère, qui passaient pour des idiots, peut-être nous, les chrétiens. Les misérables possèdent le pays, ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, et, car il voit que son jour arrive. Quel jour? De son châtiment, évidemment. Lisez tout le psaume 37, ça vaut la peine. Ce que je veux vous dire, c'est que l'avenir est sûr et certain dans les mains de Dieu. Choisissez. Faites de bons paris. Vous n'avez jamais lu Pascal, un grand philosophe français? On parle de philosophie, hein, de laïcité en France, mais jamais de Pascal. Pourquoi? Parce que Pascal croyait en Dieu, mais sans bigoterie, sans se référer forcément au pape, aux évêques, aux jésuites. Uniquement par des raisonnements simples et justes, pondérés, il croyait en Dieu et il honorait Dieu. C'est très difficile à lire, je vous le concède, Pascal. Il faut de la patience. Mais bon, voilà, il y avait quelqu'un d'honorable et il n'est jamais mis à l'honneur. Il dérangerait trop le diable, je pense. Parce qu'avec sa raison, il fait la démonstration qu'il faut croire en Dieu. Le grand Pascal, qui est si petit en France, qui est grand aux yeux de Dieu et dans mon cœur. Alors, nous allons prendre le psaume 147. Je devrais bientôt arrêter, les amis, je m'excuse, je continuerai le sujet. Psaume 147. Je veux vous donner un grand espoir dans le futur. Un grand espoir. Une grande joie, une grande paix. Mettez votre foi dans la parole de Dieu et dans Jésus. Psaume 147. Il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienveillant de le louer. Chaque fois qu'on a l'amour de Dieu et qu'on le loue, qu'on le prie, il y a une douceur qui tombe dans notre cœur. Il y a une paix et un repos. Il est doux, il est bienveillant de le louer. Pesez ce verset-là. Je trouve toujours ma paix en me mettant seul dans ma chambre, dans la prière avec mon Seigneur. Et aussi avec ma femme et nos enfants, mais aussi avec les frères et les sœurs. Mais il faut commencer seul dans la chambre. Seul, avec lui. Dans ses bras. Demandez un câlin à Jésus. Demandez un câlin, beaucoup de câlins. Moi, je suis habitué à les demander. Et il me les donne. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Vous avez vu ? Prophétie. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pansent leurs blessures. C'est pas la parabole du bon samaritain, ça ? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Il est tellement grand, notre Dieu. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Chers amis, le seul moyen d'éviter la déprime et de vivre dans la joie et la paix, c'est de célébrer le Seigneur, c'est lui dire merci, de se tourner vers lui. C'est sortir de cette gangue-là en nous, arrière Satan. Je ne veux plus ces pensées sinistres, je ne veux plus tout ça, je veux être dans la paix et la joie. Seigneur, aide-moi à te louer, aide-moi à te chanter. Sur Facebook, il y a, quand vous allez voir sur mon mur, il y a des pistes pour trouver cela, pour vous aider à prier et à chanter. Alors, vous lisez tout le psaume 147, je serai content pour vous. Je serai très content pour vous. Et je vais terminer avec un texte, Jean 11, 25, puis j'ai quelques indications à vous donner. Jean 11, 25. Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean 11, 25. Crois-tu cela ? La fois prochaine, je vais prendre des versets sur « Aimez-vous les uns les autres ». Mais il y en a plein. C'est une foison. C'est un ami pasteur de Limoges qui me les a envoyés. Mais je dis franchement, je ferai un commentaire. Je vais mettre ça à ma sauce, hein. Comme toujours. Et je suis certain que mon ami Mathieu à Limoges a bien présenté ça et que c'est chouette dans son église. C'est un très bon serviteur du Seigneur, je vous le recommande, à Limoges. Alors, de quoi je veux vous parler ? Il y a une Bible ici, une Bible Archéo. C'est édité par la Maison de la Bible. La Maison de la Bible. Édite une Bible avec toutes les notes historiques et archéologiques. Si vous avez besoin de progresser, il y a plein de notes d'études archéologiques et historiques. J'en ai acheté 2-3 que j'ai distribuées à des chrétiens. Je vais continuer, je vais en acheter. Dès que j'ai 4 sous, je vais le faire, parce que je veux qu'ils progressent, qu'ils aillent vraiment dans l'intelligence de la parole de Dieu. Il y a des photos, il y a des images, il y a des commentaires. Et il y a bien sûr toutes sortes de choses qui peuvent vous aider. Vous aider. Des photos, etc. Je vous invite donc à faire attention, la Maison de la Bible a édité cette Bible Archéo. La Bible avec notes d'études archéologiques et historiques. Maintenant, si vous aimez lire la Bible au fur et à mesure, et avoir une explication de chaque verset. Voici un commentaire. Un commentaire. Ce commentaire, le commentaire du disciple de toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, William MacDonald Arthur Fastot, à la portée de tous. Édition La Joie. Édition La Joie et La Joie de l'Éternel. Édition La Joie de l'Éternel, c'est à Saône-sur-France, boîte postale 27, France 25-660. Vous pouvez trouver ce bon bouquin qui peut vous aider à étudier la Bible par vous-même et vous enrichir de la parole de Dieu. Je vous recommande d'avoir un livre comme ça que vous utiliserez pendant des dizaines d'années. Il y a des livres plus sophistiqués pour ceux qui ont fait du grec, de l'hébreu, etc. Bon, je ne parle pas de ceux-là. Moi, j'utilise aussi les autres, plus compliqués. Je vous parle aussi d'un atlas d'histoire, édité en Belgique, qui s'appelle Atlas d'histoire, par Franz Haidt, H-A-Y-T. C'est édité chez The Book Westmal. Dans ce livre, vous avez toutes sortes de cartes qui vous permettent de comprendre l'histoire du christianisme, l'histoire des religions, l'histoire de toutes les nations, de tout ce qui s'est passé sur la terre. Et je vous en prie, quand vous voulez avoir une notion exacte de ce qu'est l'histoire, en connotation avec la Bible, cet atlas d'histoire est formidable. C'est donc De Book et Larcier, rue des Minimes 39, 1000 Bruxelles. Je l'utilise depuis des années. J'en ai donné un à tous les chrétiens qui sont déjà anciens dans notre Église. Anciens, c'est-à-dire qui sont là depuis longtemps. Je vous recommande cela. Ensuite, je voudrais vous recommander quelque chose. Pour les jeunes, 11 histoires de jeunes qui étaient sombrés dans des bêtises, des égarements épouvantables, et qui ont trouvé auprès du Seigneur une lumière, une vraie vie. Oui, 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 donc trois fois oui, point, reskp.fr. 11 jeunes racontent leur sauvetage par Jésus. Et cette carte, si vous voulez, si vous l'avez sur votre portable, vous pouvez vous en servir pour aller trouver ça pour des jeunes. Maintenant, pour des personnes d'origine arabe ou musulmane, je vous invite à ceci. Ceci. Si vous le prenez clairement en photo, je vais dire ce que c'est. Regardez. Je tremble un peu, hein. Excusez-moi. Je prends un médicament pour le tremblement. 10 témoignages à écouter, à télécharger gratuitement. Ce sont des musulmans convertis. Et Chemin vers le ciel, que ça s'appelle. 3 fois W, oui, 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 oui. Point, chemin vers le ciel. En gros caractère imprimé, chemin vers le ciel. Sans espace, donc en majuscule, point com. Chemin vers le ciel, point com. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans cherchent Jésus. Il y a un réveil spirituel partout. Partout. Je vous en prie, pensez bien que l'apôtre Paul a sa conversion. Tout de suite après sa conversion, quand il était à Damas, par 3 ans prêché aux Arabes. Je vous en prie, ayez de l'amour pour les Arabes, et beaucoup d'amour, priez pour eux, ils souffrent beaucoup de toute la situation qui se passe dans le monde. Priez pour eux, je vous en prie, ne les regardez pas en les jugeant, en les condamnant, et priez pour Israël. Ne les jugez pas, ne les condamnez pas. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. À vendredi.